Aujourd'hui, notre émotion est grande, mais notre foi dans l'amour est plus grande encore. Notre foi en Dieu amour, que Carlo Bic a fait connaître à tant de personnes. C'est aussi un Magnificat que nous chantons avec elle pour les grandes choses que le Seigneur a fait en elle, et en même temps un désir nous anime de vivre plus que jamais l'Évangile comme elle nous l'a enseigné.
Chiara Lubich a fondé le mouvement des Focolari en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Quelle a été son intuition ?
C'était la guerre. Elle pouvait mourir d'un instant à l'autre. Avec quelques-unes de ses amies, elle avait senti que le seul idéal qui ne passait pas, c'était Dieu. Et elle s'est demandé, mais quelle est la meilleure façon d'aimer Dieu, de sorte que si nous devions nous présenter à lui, nous pourrions lui dire qu'au moins dans les derniers instants de notre vie, nous avons fait ce qui lui tient le plus à cœur. L'Évangile lui a répondu, et voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et c'est de cette décision commune de vivre ensemble l'amour réciproque, en fait, qu'est née autour d'elle une communauté, un groupe qui vivait justement l'amour réciproque, la fraternité, l'unité, parce que en vivant le commandement nouveau de Jésus, elles ont senti la présence de Dieu parmi elles, et elles ont senti aussi qu'elles étaient appelées à contribuer à réaliser le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, que tout soit la prière, la dernière prière de Jésus.
C'est ce concept d'unité qui est véritablement au cœur du mouvement.
Ah oui, certainement. Chiara a eu dès le début la certitude que ce qui était en train de naître autour d'elle avait cette finalité-là. Et puis, les circonstances ont fait que son intuition s'est réalisée parce qu'elle est devenue un instrument d'unité dans l'Église catholique, entre les mouvements aussi, entre les ordres religieux, entre les prêtres et les évêques. C'est la collégialité aussi, c'est sa spiritualité, la spiritualité de communion, et d'une communion qui va aussi au-delà justement des frontières de l'Église catholique. S'il y a une phrase de l'Évangile qui peut dire qui est Chiara Lubich, c'est vraiment que tout soit un.
Autre particularité du mouvement, la place accordée aux laïcs.
Certainement, ce mouvement est né d'ailleurs de laïcs et même de femmes laïques, parce qu'au début c'était un groupe de jeunes filles. Et la spiritualité de Chiara est une spiritualité universelle, en ce sens que des prêtres et des religieux la vivent aussi, des évêques aussi, mais c'est une spiritualité justement qui est particulièrement adaptée pour les laïcs, parce qu'elle enseigne à faire la volonté de Dieu dans l'instant présent, à écouter la voix de Dieu là où on est, à la maison, au travail, mais surtout à créer comme des petites oasis de surnaturel, à créer la présence du ressuscité au milieu des chrétiens, là où deux ou trois sont unis en son nom. Mais deux ou trois, ça peut être un patron et ses ouvriers, ça peut être un mari et sa femme, ça peut être deux parlementaires, ça peut être un professeur et des étudiants ou des professeurs.
En tant que théologien, qu'est-ce qui vous a le plus touché au sein de ce mouvement ?
Disons que Chiara Lubich a vraiment été prophétique, en ce sens qu'elle a... Elle a anticipé bien des intuitions du Concile Vatican II, parce que sa spiritualité de communion permet vraiment de réaliser le modèle d'Église qui a été décrit par la Constitution dogmatique Lumen Gentium ou par la Gaudium et Spes. Mais ce qui m'a personnellement le plus touché, c'est le secret de cette unité que Chiara a trouvé dans le cri d'abandon de Jésus sur crucifié. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et elle l'a vu dans le cri d'abandon l'immense amour de Dieu qui se renverse sur le monde, parce que le Fils du Père s'est tellement fait un avec nous, les hommes. Il s'est fait non seulement homme, mais il nous a rejoints dans notre séparation de Dieu. Il ne se sent plus Dieu, il ne sent plus le Père. Il a été jusqu'à perdre, en quelque sorte, son identité. Et donc, il nous a vraiment tout donné. Il nous a donné son union avec le Père. Et donc, quand nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, c'est juste que Chiara a toujours compris comme jusqu'à l'abandon du Père. Donc c'est d'avoir entre nous cette mesure-là d'amour. Et si nous aimons comme ça, alors sur notre rien, vécu dans l'amour réciproque, sur le fait que chacun perd aussi sa perception partielle de la vérité pour écouter l'autre, pour vraiment croire que c'est Dieu parmi nous qui peut nous dire et lui nous guider, alors... Voilà, alors l'unité est possible, mais l'unité n'est pas possible s'il n'y a pas des personnes qui connaissent et qui aiment Jésus crucifié, abandonné. C'est une intuition extrêmement profonde.
Juste après sa création, le mouvement s'est étendu au monde entier. Il rayonne maintenant sur plus de 180 pays. Pour quelles raisons autant de personnes ont-elles été « attirées » entre guillemets par ce message de Clara Lubick ?
Je pense qu'elles ont été attirées par la cohérence. Chiara n'avait jamais l'idée de faire de la propagande ou bien d'organiser la diffusion du mouvement. Non, tout s'est fait vraiment spontanément. C'est par le témoignage de la vie. Et l'Évangile dit aussi qu'il soit un afin que le monde croit. Eh bien, je pense que l'histoire du mouvement des Focolari démontre la vérité aussi de cette parole de l'Évangile parce qu'on est tous faits pour aimer et être aimés.
Selon les statuts du mouvement, la présidence est attribuée à une femme. Des élections vont donc avoir lieu dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a une figure à laquelle on peut déjà penser aujourd'hui ?
C'est vrai que la présidente du mouvement sera une femme parce que le mouvement s'appelle aussi l'œuvre de Marie, parce que justement le mouvement veut engendrer la présence du Christ parmi les hommes. Et le pape Jean-Paul II lui-même, dans une conversation avec Clara Lubick, avait dit que lui aussi pensait que c'était bien que ce soit toujours une femme qui soit à sa tête. L'assemblée, disons, du mouvement aura lieu en septembre, en octobre prochain. Évidemment, personne ne pourra prendre la place de Clara Lubick, qui avait ce charisme exceptionnel aussi. Mais il y aura certainement quelqu'un qui prendra sa place comme présidente. Et on ne sait pas encore si ce sera la plus jeune de ses premières compagnes ou bien quelqu'un de la nouvelle génération. Ça, ce sera l'Assemblée qui le décidera, on ne peut pas le savoir.
Pour conclure, qu'est-ce que Clara Lubick vous a laissé ?
Personnellement, moi j'ai eu la grâce de travailler les dernières années avec elle et je dois dire que j'ai vu en elle une personne qui est toujours à l'écoute de Dieu. Parce qu'elle était vide d'elle-même, alors elle était vraiment un instrument de l'Esprit-Saint.